Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 9h en temps universel, 11h à Tel Aviv, le journal.
Pierre Boudias.
Et à la une, les appels à la retenue se multiplient après les frappes israéliennes contre l'Iran. Bombardements qui ont fait 4 morts selon Téhéran, qui se donne le droit de répondre. Une éventuelle riposte qui inquiète dans les rues de Jérusalem, vous l'entendrez. Jour de vote au Japon, législative anticipée qui pourrait voir les conservateurs perdre leur majorité. Un scrutin qui devrait battre des records d'abstention, notamment chez les jeunes. Au Brésil, c'est pour le deuxième tour des municipales que les électeurs sont appelés aux urnes. Scrutin qui fait figure de test à 2 ans de la présidentielle. Reportage à Sao Paulo dans cette édition. Et puis en République démocratique du Congo, Jean-Jacques Lumumba, bientôt de retour d'exil. Le lanceur d'alerte est attendu à Kinshasa en novembre. Après 8 ans passés en France, il promet de poursuivre son combat contre la corruption. 4 militaires tués, des dégâts minimums sur les infrastructures de défense. Bilan des frappes israéliennes sur l'Iran, tel que présenté par la République islamique. Téhéran dit ne pas se fixer de limites dans une éventuelle riposte. États-Unis, France, Union européenne appellent à la plus grande retenue pour ne pas aggraver les tensions régionales. Réaction mitigée en Israël, à Jérusalem. Les habitants ne cachent pas leur inquiétude pour la suite. Reportage de Michel Paul.
En civil, mais il ne quitte pas son fusil d'assaut, Arnon est réserviste. Après Gaza, il sert maintenant au sud Liban. Pour lui, les frappes israéliennes sur l'Iran sont une bonne chose.
Super, il faut montrer de la puissance maintenant. Nous sommes en guerre. Je crois aussi qu'il faut arriver à un accord politique. Mais dans notre situation, il y a une dynamique positive pour faire preuve de force et montrer à l'Iran qu'il ne faut pas jouer avec nous. C'est totalement positif.
Plus partagée, Lilar se pose des questions. Elle craint une escalade et aussi les répercussions au sein de la société en Israël.
Malheureusement, on n'a pas d'autre choix que d'agir ainsi. Israël doit se tenir debout fermement et se défendre. Malheureusement, cela entraîne des choses moins sympas. Mais j'ai confiance dans l'armée. Elle fait ce qu'il faut faire.
À la fin du Shabbat, Tzvi vient d'entendre les nouvelles à la radio. Pour lui, toutes les options sont possibles.
Je pense que c'est normal, c'est une riposte normale aux 200 missiles qui ont été envoyés sur Israël le 1er octobre. Voilà. Je pense que les Iraniens vont peut-être riposter. Ça n'est pas impossible.
La guerre est loin d'être finie, estime-t-il encore. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et le guide suprême iranien estime à l'instant qu'il ne faut ni exagérer ni minimiser l'attaque israélienne. Israël, où un camion a percuté il y a quelques minutes une station de bus à Ramat Hasharon dans le centre du pays. Des dizaines de personnes sont blessées selon les secours. Nous ferons le point dans nos prochaines éditions. Les bombardements se sont poursuivis hier sur le sud de Beyrouth au Liban. Le Liban où 1,3 million de personnes ont désormais été jetées sur les routes par les combats entre Hezbollah et armée israélienne selon les autorités. Tel Aviv annonce la mort de 4 de ses soldats dans ces combats à la frontière avec le Liban. Les frappes se sont également poursuivies sur le nord de la bande de Gaza, la zone où la situation est catastrophique selon le patron de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. RFI, il est 18h03 à Tokyo où les bureaux de vote ferment dans un peu moins de 2 heures. Les Japonais se rendent aux urnes ce dimanche. Élection législative anticipée à la suite de la décision du nouveau Premier ministre Shigeru Ishiba de dissoudre la chambre basse du Parlement. Le parti de droite au pouvoir que le chef du gouvernement préside redoute de perdre de très nombreux sièges car il est éclaboussé par un scandale politico-financier retentissant. Une quasi-certitude, les moins de 30 ans devraient largement bouder les isoloirs. À Tokyo, Bruno Duval.
Aux dernières élections législatives, il y a 3 ans, 6 jeunes japonais sur 10 n'ont pas voté, soit beaucoup plus que le taux d'abstention global, toute tranche d'âge confondue, de 45%. Ces étudiants tokyoïtes, pareillement, ne comptent pas se rendre aux urnes.
N'ayant jamais vu mes parents voter, ça ne me paraît pas problématique de m'abstenir.
Je voterais si on pouvait le faire d'un clic, par ordinateur ou avec un smartphone. Mais là, me taper la queue devant un bureau de vote, non merci.
À quoi bon voter? C'est toujours le même parti qui est au pouvoir. Et ça ne changera sans doute jamais.
De toute manière, nos politiciens se fichent des jeunes. Seuls les vieux les intéressent. Donc pourquoi est-ce qu'on voterait pour eux?
Près d'un Japonais sur 3 ayant 65 ans ou plus, et cette tranche d'âge s'abstenant peu, elle a toujours été la priorité numéro 1 des dirigeants. Au détriment des jeunes, dans l'archipel par exemple, seuls 8% des dépenses publiques sont consacrées à l'enseignement, contre 12% en moyenne dans les autres pays industrialisés. La classe politique japonaise est assez âgée et en plus, autre facteur qui n'incite pas les jeunes femmes singulièrement, à aller voter, elle est très masculine, jusqu'à la caricature. 90% des députés sortants, comme des ministres d'ailleurs, sont des hommes. Et c'est le cas également de 3/4 des candidats à ce scrutin. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
En Géorgie, le parti au pouvoir remporte le scrutin législatif qui s'est déroulé hier. La commission électorale valide la victoire du parti pro-russe Rêve géorgien. Il a recueilli 54% des suffrages. Décision contestée par une partie de la coalition d'opposition. Ce succès pourrait éloigner le pays du Caucase d'une adhésion à l'Union européenne. À noter que ce dimanche, c'est en Lituanie et en Bulgarie que se déroulent des législatives. Deux scrutins polarisés notamment par l'attitude à adopter vis-à-vis de Moscou. Au Brésil, c'est le second tour des élections municipales qui va occuper les électeurs. Aujourd'hui, des élections test de mi-mandat à 2 ans des prochaines présidentielles et législatives. Après le premier tour au début du mois, l'extrême droite du camp de Jair Bolsonaro avait pris de l'avance. Sao Paulo, plus grande ville du pays, est une vitrine de la polarisation du Brésil. Reportage de Sarah Cozzolino.
Échange de petites phrases, provocations et accusations ont marqué le débat ce vendredi 25 octobre entre Ricardo Nunes et Guilherme Boulos. Le premier maire sortant et candidat de droite est allié de l'ancien président Jair Bolsonaro. Le second, Guilherme Boulos, leader du parti Socialisme et Liberté, est soutenu par l'actuel président Lula. Un duel qui avait été perturbé par l'arrivée subite d'un troisième homme, l'outsider Pablo Marçal. Même absent du second tour après avoir échoué de peu, cette figure ascendante de l'extrême droite reste importante selon Camila Roche. Elle est docteur en sciences politiques à l'université de Sao Paulo.
Marçal est apparu dans les sondages avec 18% des intentions de vote des Brésiliens au niveau national. Dans le sud du Brésil, il l'emporterait même face à Lula. Donc, nous pouvons bien parler d'une nationalisation de cette élection.
Selon un sondage du journal Folha, 80% des voix de Pablo Marçal se reporteraient sur l'actuel maire de droite de Sao Paulo. Claudio Couto, politologue de la Fondation Getúlio Vargas.
Le taux de rejet est un facteur fondamental. Et c'est la raison pour laquelle le fort taux de rejet de Guilherme Boulos dans la ville de Sao Paulo rend sa victoire compliquée.
Après un accident domestique ces derniers jours, Lula annonçait qu'il ne pourrait pas voyager à Sao Paulo ce dimanche pour soutenir son candidat. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Et puis on vote également chez le voisin uruguayen, élection présidentielle où le candidat de gauche, Yamandu Orsi, paraît en position favorable face à la coalition de centre-droit de l'actuel chef de l'État, Luis Lacalle Pou. Le lanceur d'alerte et militant anticorruption Jean-Jacques Lumumba met fin à 8 années d'exil en France. Il confirme son retour prochain en République démocratique du Congo. Attendu à Kinshasa en novembre, il participera notamment à une conférence sur la lutte contre la corruption organisée par Transparency International. En 2016, ce petit-neveu de Patrice Lumumba, ancien Premier ministre congolais, avait exposé un scandale majeur impliquant la famille de Joseph Kabila. Alors son retour marque-t-il la fin de la corruption en RDC? Le principal intéressé reconnaît quelques avancées, mais estime que la lutte est encore loin d'être gagnée.
Je ne dirais pas que la corruption s'est améliorée, mais il y a des avancées. Je crois que la RDC reste parmi les pays où la corruption est un fléau qui frappe. Et j'ai choisi de rentrer au Congo pour essayer d'aller aider à ce que ce fléau puisse reculer. La corruption a fait des ravages et continue à faire des ravages. Vous savez qu'aujourd'hui, la justice continue à faire défaut. Et le combat que j'ai mené et que je vais continuer à mener, c'est aussi d'aider la RDC à récupérer de l'argent, parce que vous savez, par rapport à plusieurs révélations que nous avons faites, il y a plusieurs procès qui ont été ouverts. Et aujourd'hui, il y a plusieurs demandes d'entraide judiciaire envers la RDC pour que la RDC récupère ses biens ou que les Congolais rentrent dans leurs droits, qui restent encore sans réponse. Et je crois que ma présence en RDC essaiera de faire avancer et faire bouger ces lignes-là, parce que le Congo a été perdant à cause de la corruption. Et il faut continuer à se battre pour permettre à ce peuple de récupérer ce dont il a besoin et ce qui lui revient de droit.
Jean-Jacques Lumumba, il était au micro de Christina Okello. La République démocratique du Congo, où des combats sont en cours dans la province du Nord Kivu. Ils opposent le M23 aux forces pro-gouvernementales dans la région de Walikale, située à 180 km au sud-ouest de Goma. La milice soutenue par le Rwanda se serait emparée de plusieurs villages et tente désormais de s'emparer de la ville de Pina, qui abrite une importante base de l'armée congolaise. Et puis la Chine déploie une 20aine d'avions et de drones de combat près de Taïwan. Une patrouille de préparation au combat selon Pékin, patrouille qui intervient 2 jours après la vente de missiles américains à l'île dissidente pour un montant d'un peu plus $1 milliard. Une autre vente avait également eu lieu qui concernait cette fois-ci des systèmes de radar, une transaction qui met en péril la paix dans la région et viole gravement les intérêts de la Chine, a réagi le ministère des Affaires étrangères. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Radio du Monde.